lâcher le bon vin de messe. S'ennuiera sa sincérité, faisait que souvent il le confesse, qu'il avait des difficultés à mettre de l'ordre dans ses idées, et fréquemment dans ses sermons, c'était vessi pour des lampions. Par un beau dimanche de rameau, pour illustrer sa parabole, il prétendit que le bon Dieu, voulant nourrir quatre personnes, usa de son pouvoir divin, et nos convives émerveillés se partagèrent pour leurs besoins 2000 boissons et 3000 pains. Y'a pas que lui qui peut faire ça, lui crie Bertrand, un gros malin, bien connu de tous ses voisins. Mais quand on a Rome derrière soi, ça vous vaut bien 3 Gibraltar et notre abbé environnard. On doit le dire bien patiemment, attendit le dimanche suivant. Il reprit la même parabole, serrant de près les écritures, et Jésus-Christ dans l'aventure, avec 3 poissons et 2 pains, put satisfaire la caravane, et son curé par la même main, qui demanda au vieux Bertrand d'être capable d'en faire autant. J'y vois pas grande difficulté, lui répondit notre entêté, mais je voudrais bien savoir comment, lui fit le curé encourageant. Eh bien mon père, sauf votre respect, on va s'y prendre bien simplement, je m'en vais calmer ces affamés, avec ce qui reste de dimanche dernier.
Bonjour, cette émission constitue le deuxième volet de cette série consacrée à Gustave Courbet, autour de sa peinture intitulée « Le retour de la conférence ». Nous rappellerons simplement dans cette émission l'épisode de l'exposition de Gand en 1868. Dans l'histoire du tableau, il y a aussi un épisode qui va nous arrêter un peu longuement. En effet, en 1868, Courbet propose pour le salon de Gand en Belgique le tableau avec 11 autres œuvres. Et dans un espace séparé, non ouverts au grand public, vont être exposés « Le retour de la conférence »,« La mort de Jeannot » et « Deux nus splendides »,« La femme à la vague » et « La femme au chien ». 2 tableaux anticurés et 2 tableaux érotiques. Et à cette occasion, il va proposer au public 2 petits ouvrages non signés, dont on peut penser qu'il n'est pas l'auteur, mais dont il a confié la rédaction à un auteur, à partir des anecdotes et réflexions qu'il lui a indiquées. On peut le croire, sauf s'il s'agissait pour lui de se dédouaner, mais se dédouaner après les illustrations avait-il un sens? Car il a écrit le 11 septembre 1868 « Vous avez mes 2 tableaux, l'un le vol, l'autre la soûlerie. À l'appui de ces 2 tableaux, j'ai fait écrire 2 notices ou histoires de faits véridiques à ma connaissance » qui ont donné lieu à ces tableaux. J'espère que ça va donner lieu à une grande guerre, car j'ai dans la volonté de les pousser loin. Nous serons excommuniés, espérons-le, puisque nous ne sommes pas décorés. On va rire. Le texte n'est pas écrit selon mon gré, mais ce n'est pas important, les dessins suffiront. Je vois d'ici l'archevêque de Malines. » Fin de la citation de sa lettre. Ces 2 brochures, il n'est pas impensable que ce soit le journaliste proudhonien Pierre Denis qui les écrivit. Les 2 notices s'intitulent l'une « Les curés en goguette » et l'autre « La mort de Jeannot, les frais du culte ». Elles se présentent sous la forme de 2 petits ouvrages d'une 30aine de pages, format environ 20x12, avec, et ce n'est pas le moindre de leur intérêt, 6 dessins de Courbet pour illustrer les curés en goguette et 4 dessins de Courbet pour illustrer la mort de Jeannot. Ces ouvrages originaux, bien sûr introuvables aujourd'hui, sont des collectors et sur Internet, on peut se les procurer aux environs de 500 euros. Ils sont ainsi achetables. Du moins, un exemplaire semble être disponible. À noter que les curés en goguette ont été réimprimés une fois en 1884. On peut aussi les consulter dans de rares bibliothèques, dont celle de Besançon, mais surtout, ils sont aisément accessibles et gracieusement grâce au site Gallica de la BNF. Nous disions donc que 2 opuscules ont été édités sans nom d'auteur, mais par contre, sur la couverture, il est écrit La mort de Jeannot, les frais du culte, avec 4 dessins de Gustave Courbet, exposition de Gand 1868, prix 1 franc. Les curés en goguette, avec 6 dessins de Gustave Courbet, exposition de Gand 1868, prix 1 franc. Bref, c'est un peu le catalogue de l'exposition qui est proposé là. Le tableau, La mort de Jeannot, est répertorié comme œuvre disparue. C'était un tableau de 140 par 100 cm. Je n'en sais pas plus.
Si Monseigneur l'évêque voulait bien racheter le bordel clandestin de la rue Saint-Antoine et le petit bistrot qui se trouve à côté, ça ferait bien plaisir à Monsieur le chanoine. L'archiprêtre a besoin de ce que vous savez, il n'est plus temps pour lui de changer d'habitude. Il se confesse après trois pater, trois ave. N'empêche que les bonnes dames trouvent la chose un peu rude. Si Monseigneur l'évêque pouvait envisager d'acquérir en sous-main l'endroit que je lui signale, il pourrait apaiser les besoins du clergé en toute sécurité, à l'abri du scandale. Madame de Saint-Laurent a mis les choses au point. Si je vends mon bordel à Monseigneur l'évêque, mes petites en seront ravies, elles en prendront bien soin qu'ils viennent dîner chez moi dimanche avec un chèque. Si seulement je pouvais convaincre Monseigneur, j'en serais si content pour notre bon chanoine. Et pour tous ces messieurs, je les connais par cœur, acheter le bordel de la rue Saint-Antoine. Le personnel est bien, les locaux sont rupins, il n'y a pas de morte saison que Monseigneur se le dise. Et puis ces petites au fond, faut bien qu'elles gagnent leur pain, il vaut mieux que ce soit dans le giron de l'église.
Mais revenons à Gustave Courbet et à ses amis les curés de l'époque. Courbet était un esprit rebelle à beaucoup de choses et à l'autorité sous toutes ses formes. Difficile d'imaginer qu'il ait pu gober, même tout jeune, l'ordre moral imposé par les curés, en plus des croyances qu'il qualifia vite d'imposture et de charlatanisme. Avec un programme de « bannir le mystérieux, le merveilleux, ne pas croire à l'incompréhensible » et « renoncer aux maximes du Christ dans tout ce qui condamne et empêche l'homme de se révéler dans sa puissance ». Dans ses dispositions, il était bien parti pour l'anticléricalisme. Il reprochait par exemple aux élites d'Ornans d'empêcher l'éducation laïque et de donner une subvention aux frères ignorantins de telle sorte que la population se maintienne dans la béatitude du crétinisme.
Ils ont mal commencé, bouffés dans les arènes, victimes fanatisées de la connerie humaine, annonçant par leur mort, vision prémonitoire, tout ce qu'ils feraient aux autres, ceux qui veulent pas les croire. Et on a maintenant dûment répertorié des anciens combattants sur le calendrier des curés. Puis un pape est venu avec de la peinture qui dessinait des croix rouge sur les armures, qu'on vive sans l'église. Ce n'est pas supportable, on tue les albigeois, tous des suppôts du diable. Les prétextes sont bons, quand c'est l'argent qu'on aime, on envoie les chrétiens donner Jérusalem au curé. Pour dominer le monde, l'argent ça suffit pas, on fait l'enseignement, le dogme suffira. Reste dans l'ignorance et bientôt tu croiras. L'inquisition travaille en cagoule et prière. Et on fait peur aux gens et on brûle des sorcières. On fait taire Galilée, elle tourne pas la terre. Des curés, d'abord elle est plate. Et puis voilà soudain qu'en Allemagne on conteste, on sort les arquebuses. Les gibets sont en fête, au nord les hérétiques, au sud les catholiques, de clans de fanatiques vont s'entre-dévorer. Les vaincus s'expatrient et vont en Amérique tuer les Indiens du Nord et les christianiser. À l'alcool! Derrière Christophe Colomb, le missionnaire fait caca, il y a de l'or au Pérou. On détruit les Incas, plus tard on s'en ira jusqu'en Polynésie, couvrir la nudité des filles d'Océanie. Et toi, pauvre négro, si le boulot n'est pas drôle, tu chanteras dimanche un négro spirituel chez le cucu. Curé, maintenant voyage aux Indes, on voit le pape avec son bel avion et sa belle Mercedes Benz. Et jusqu'en Colombie, les paysans parqués l'ont entendu leur dire derrière des barbelés: ne soyez pas violents, les hommes sont tous des frères, n'ayez pas de colère, respectez vos patrons. Et l'église, maqué, maqué. Puis qu'on va sur la lune, ils préparent leurs valises, car aux pauvres planètes, on leur balance l'église. Les étoiles sont en or, allez leur faire la guerre, s'ils pouvaient foutre le camp avec leurs militaires. Y'aurait de l'amour chez nous et du bonheur sur terre. Dieu serait vraiment au ciel et on aurait enfin le paradis. Sans lui.
Une belle illustration de cette assertion nous est donnée par le lieu de pèlerinage de Notre-Dame-du-Chêne, dont l'histoire est contemporaine de la période où Courbet peignait ses tableaux de curé et qu'il a illustré dans son tableau. Donc, je vous propose de revenir sur l'histoire correspondant à la présence de cette statuette de la Vierge insérée dans le chêne du tableau du retour de la conférence. Statuette forcément miraculeuse, découverte à quelques kilomètres d'Ornans, une cinquantaine d'années avant. Je vous la résume. Notre-Dame du Chêne et ses miracles. Une zozote née le 16 octobre 1789, en allant faire ou en revenant de faire sa première communion le 3 avril 1813, accompagnée d'une autre jeune fille, a, elle seule, la vision d'un cortège composé d'une femme suivie de quatre autres, toutes vêtues de blanc. Elle les suit, les prenant pour des dames d'Ornans. Elles vont jusqu'au vieux chêne de Grandchamp, et là, le cortège entre en lévitation, jusqu'à la hauteur de la ramification du tronc. Cécile Mille, c'est elle, prend alors peur et court se réfugier à la première maison du village. Elle raconte son histoire, personne ne la croit, ni ses camarades. Oh, la vilaine, elle ment alors qu'elle vient juste de communier. Ni ses parents, ni le curé, ni les gens du village. Mais la gamine est tenace et tient à son histoire. Dans le village, pour tout le monde, c'est un non-événement. Mais, 5 mois plus tard, le 15 août, le père de Cécile, avec un de ses amis vanniers de passage, se retrouve soudain guidé par une lumière qui les dirige vers le vieux chêne. Et là, il voit apparaître dans celui-ci une petite statue de la Vierge en terre cuite. Cette fois, tout le village constate le miracle et le prêtre consigne dans le registre paroissial. Tout cela sans que personne ne se demande qui est le gros malin qui a planqué la statue dans le chêne. Après, la Cécile se calme, elle n'ira pas au couvent, elle se mariera et aura des enfants, sera très modérément pieuse et décédera en 1835 à 46 ans. De 1803 à 1841, il ne se passera rien. On abattra même le chêne en 1839 sans que cela ne gêne personne. Seuls quelques bigotes venaient de temps à autre réciter leur chapelet à quatre pattes devant la statue. Mais ne voilà-t-il pas qu'un illuminé laïc né à Sées en 1871, Xavier Collard, fondateur d'une institution religieuse à Lyon, relance l'affaire tambour battant et mène une enquête 30 ans après le pseudo-miracle. Enquête qui conclut à un miracle admis par les responsables du clergé. L'objet du miracle reconnu, ce sera la statue, pas les apparitions. On n'a pas poussé le bouchon jusque-là. Ce miracle a-t-il fait des petits? Mais bien sûr, il y a eu des miracles, beaucoup de miracles, 90 miracles. Mais c'est curieux, tous sauf un à partir de 1844 seulement. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Juste à partir du moment où l'autre illuminé a fait son cirque. Et il ne va pas s'arrêter là. On va construire une chapelle et un ermitage sur le site. première pierre en 1863, le 12 juillet. Tiens, tiens, 1863, justement la date du tableau de Courbet, qui a donc célébré l'événement à sa manière. Bénédiction de la chapelle le 3 août 1869, une chapelle dont l'architecte, Bossant, n'est rien d'autre que celui de la basilique de Fourvière à Lyon. Heureusement, le miracle et les dévotions ne dépasseront jamais le cadre très régional. Une Vierge à usage exclusivement franc-comtois. Une Vierge rien que pour nous, ça nous évite un peu le ridicule au-delà de la région. Comme d'habitude, cette histoire de miracle est une franche rigolade à l'usage des gogos, qu'il faut tenir bien serré dans la superstition, et Courbet, sur ce coup comme sur d'autres, ne s'y était pas trompé.
Il s'est rétracté, Galilée, quand on lui a dit, tu seras brûlé, si contre les vents et marées, tu maintiens que la terre est ronde. Si devant le docteur conseil, parlons latin et chamarré, tu dis que terre pour soleil, comme quatre, mais ne s'arrondre. Galilée, Galilée, à sa place, qu'aurais-je fait? Un bûcher vraiment s'effraie, et quand le sarment est trop frais, ça dure un siècle, une seconde. Quand on ne veut pas faire appel au grand absolvant du curé, quand manque le bras fraternel, il n'est plus rien qui vous seconde. Galilée, Galilée, force lui fut donc d'abjurer, et pourtant a-t-il murmuré, elle tourne, et c'est toujours vrai, avec de plus en plus de monde. Avec ses joyeux arcs-en-ciel, ses cosmonautes galonnés, ses satellites artificiels et ses nuées de fin du monde. Galilée,
je me propose donc de vous lire l'intégrale de cet opuscule, texte qui, à lui seul, vaudra toutes les explications que l'on pourrait fournir sur les reproches que Courbet adressait aux prêtres, du moins sur un des aspects de leur turpitude. La mort de Jeannot, les frais du culte. On était en 1814, les alliés assiégeaient X. Pour se débarrasser de leurs blessés, il les envoyait dans toutes les localités voisines. L'hôpital d'Aubin contenait un grand nombre de ces étrangers. Ils étaient soignés non seulement par les sœurs hospitalières, mais bien encore par les demoiselles de la ville et beaucoup de jeunes filles du peuple qui cherchaient dans ce respectable asile un refuge contre les brutalités de l'ennemi. Parmi les blessés qui se trouvaient à l'hôpital d'Aubin, un certain Valzer se faisait surtout remarquer par la distinction de ses manières et l'élégance de sa tournure. C'était un chirurgien d'un régiment hongrois haut de 6 pieds, dont les traits réguliers exprimaient l'intelligence et la douceur. Comme presque tous les officiers allemands, il avait reçu une excellente éducation. Walser était cruellement blessé, un coup de feu lui avait fait perdre la vue. Dès le premier instant de son séjour à l'hôpital, il fut remarqué par une jeune fille du peuple, nommée Jeannette, qui s'attacha bientôt à lui et devint en quelque sorte son ange tutélaire. Touché par la tendre sollicitude de cette jeune fille, Le Hongrois lui en témoigna éloquemment sa reconnaissance, et lorsque les alliés quittèrent le sol français, il prêta l'oreille au conseil de Jeannette, qui l'engageait à laisser partir ses compatriotes et à se fixer à Aubin. « Je suis aveugle, se dit-il, et par conséquent, esclave de tous les gens qui m'environnent. Ma véritable patrie est là où je trouve un cœur assez généreux pour me protéger. » En matière de spéculation, Jeannette avait les idées fort étroites. Elle proposa naïvement à Walser de vendre de la mort au rat, des allumettes, de l'amadou et quelques menues merceries aux bons habitants de la ville et de la banlieue d'Aubin. La pauvre fille avait probablement économisé le capital nécessaire à l'exploitation de cette infime industrie sur le produit de ses gages de servante, dont le chiffre s'élevait alors à la somme de 30 francs par an. Cette proposition semi-grotesque provoqua d'abord l'hilarité du Hongrois, mais comme il n'avait pas d'autres ressources, il finit néanmoins par l'accepter. Quelques jours après cette bizarre association, les habitants d'Aubin furent fort étonnés de voir les rues de la ville sillonnées par ces nouveaux industriels. Walser était serré dans une longue redingote grise, orné de manches à revers et de boutons en cuivre portant le numéro de son régiment. Deux pattes de drap fixées sur les flancs marquaient sa taille. Son gilet de drap noir avait une double garniture de boutons, plus petits, mais semblables à ceux de la redingote. Il portait une culotte en velours noir, des bas de soie de même couleur, retenus par des jarretières à boucles d'argent, et il était chaussé d'escarpins à larges oreilles, orné de boucles perlées, également en argent. Ce singulier personnage s'abritait sous l'un de ces gigantesques chapeaux, idole des bourgmestres badois, appelé vulgairement « chapeau brancard », dont l'aile droite menace de poignarder le ciel, tandis que l'aile gauche semble destinée à protéger la terre contre les averses. D'une main, Walser portait une canne, et de l'autre, il tenait un grand râteau incliné sur son épaule. Aux dents de ce râteau étaient alternativement suspendus des ramors et de longs bouts de tresse de différentes couleurs qui se réunissaient dans la main tenant le manche de l'instrument. Jeannette, ou mieux la Jeannette, portait en toute saison une robe de serge verte à manches courtes et un tablier de mérinos noir d'une coupe surannée. Sa main, qui par parenthèse ne manquait pas de finesse, était protégée par une mitaine de filoselle à jour, et sa chaussure consistait en une paire d'escarpins enjolivés de rosettes en ruban. Dans sa robe, taillée à la Vierge, venaient se perdre les bouts d'un fichu en mousseline blanche qui lui couvrait le cou et la poitrine. Le bonnet de cette femme était de forme cauchoise. Il lui pressait le front sous une vingtaine de plis, puis descendait le long de ses tempes, en ailes diaphanes, et flottait jusque sur les épaules. La Jeannette ne quittait jamais son petit manteau à capuchon de forme espagnole appelé domino. Enfin, l'accessoire indispensable de l'ami du Hongrois était un panier en osier, garni d'étoffes à l'intérieur et autour de l'anse. À l'intérieur, dans l'intérêt de sa marchandise, et autour de l'anse pour ménager la manche de sa robe. Comme le nom de Walser était difficile à retenir, les enfants tournèrent l'obstacle en donnant le nom de la femme à son ami, si bien qu'il arriva un jour où l'on ne désigna plus le Hongrois que par l'appellation de Jeannot. Quoique très élémentaire, ce mariage de la main gauche réussit à merveille, car les conjoints rappelaient par leur humeur égale, leur bonté et leur douceur envers les étrangers, l'idée que l'on se fait, peut-être bien à tort, des mœurs des patriarches bibliques. Lorsqu'au milieu de leur pérégrination, ils se trouvaient par hasard dans un endroit solitaire, Jeannot disait gravement à Jeannette, avec toute l'ampleur de sa voix de basse taille, « Jeannette, y a-t-il du monde ?»« Non, Jeannot, je ne vois personne. »« Alors embrasse-moi, Jeannette. Nous ne sommes pas mariés, mais c'est tout comme. » Le long des rues, Jeannot criait « Tresse à vendre, mort au rat !» Jeannette donnait aussitôt la réplique d'une petite voix flûtée qui faisait le plus étrange contraste avec la basse profonde de son ami.
à la Madou, aux allumettes, à l'Mana Nouveau. Ces deux personnages d'aspect si pittoresque parcouraient ainsi constamment les rues, égayant les habitants et vivant du produit de leur maigre commerce. Bien maigre en effet, car leur recette journalière ne dépassait guère 30 sous, sur lesquels ils avaient à peine 7 sous de bénéfice. Le soir venu, Jeannot et Jeannette rentraient dans leur habitation située au-dessus du Seu, faubourg de la ville. Cette habitation ne manquait pas non plus d'originalité. Elle se composait uniquement d'un souterrain dont les matériaux avaient servi à la construction d'une maison sous laquelle ils se trouvaient. On y arrivait en descendant les marches d'un escalier tout à fait élémentaire, creusé dans le terrain. L'ameublement de ces tentes se composait d'un bahut de vieux chênes tombant de vétusté, de deux chaises à demi-veuves de leur paille et d'un pot égueulé. De distance en distance, on avait planté des clous contre les parois de la caverne pour y suspendre les misérables hardes que Jeannot et Jeannette quittaient avant de se jeter sur leur grabat, je n'ose pas dire leur lit. Ce meuble, si luxueux pour certains individus, consistait tout simplement en deux bottes de paille sur lesquelles était placée une paillasse de toile à carreaux bleus contenant des feuilles de maïs. Une espèce de matelas épais comme une galette comtoise, plein de poussottes d'avoine, recouvrait le tout. Les malheureux se cachaient sous une mante en lambeaux, augmentée pendant l'hiver de quelques chiffons et de leurs propres vêtements. L'antre était éclairée par une lucarne de 4 carreaux percée au-dessus de la porte. Le nid de ces tendres tourtereaux n'augmentait sans doute pas la force de leur mutuelle affection, mais il ne paraissait avoir en rien diminué la sentimentalité native du bon au gros. Ce brave homme se souvenait toujours des principes d'austère philosophie qu'il avait jadis puisés dans l'étude de la religion réformée, et il les appliquait suivant sa raison. Comme son esprit flottait constamment dans les régions élevées, il ne paraissait pas trop souffrir des privations matérielles auxquelles il était assujetti. Paragraphe 2. Cette laborieuse existence durait depuis plus de 30 ans déjà, lorsque Jeannot tomba subitement malade. L'aveugle avait alors près de 80 ans. Quant à Jeannette, elle touchait à sa 75e année. On alla aussitôt chercher un médecin. Le docteur M, chargé par l'administration de l'hôpital de visiter les indigents, se rendit au domicile des pauvres gens au premier appel. La maladie de Jeannot était fort grave, et elle ne tarda pas à empirer, de telle façon que personne ne conserva de doute sur sa prochaine issue. Alors, les femmes du quartier, plus désireuses de gagner une âme au ciel que de la laisser végéter sur la terre dans des idées irréligieuses, allèrent prévenir le curé d'Aubin de ce qui se passait avant d'offrir leurs bons offices aux malades. Au premier mot, le prêtre dressa l'oreille et leva le nez comme un cheval de dragon respirant l'odeur de l'avoine fraîche. Ce curé possédait une singulière manie, il s'arrogeait le droit exclusif d'assister les vieillards à leur dernier moment. Dans quel but ? À Aubin, les gens courageux le disaient tout haut, et les dévots de bon ou de mauvais aloi n'osaient les démentir. Mais la tendance de ce citoyen tonsuré était tellement connue que son vicaire répétait à ce propos d'un ton ironique: quand on parle d'un vieillard à l'article de la mort à mon curé, un coup de canon ne l'arrêterait pas. Donc, en apprenant l'état critique dans lequel se trouvait le vieux Jeannot, le curé se coiffa de son bonnet conique, couvre-chef imitant fort heureusement un gobelet d'escamoteur, et son surplis ployé sur le bras, il se rendit de son propre chef auprès du moribond. Sa face blême, légèrement colorée aux pommettes des joues, ses sourcils froncés et sa bouche tout à la fois narquoise et menaçante indiquaient bien un champion de l'école de Basile marchant bravement à la conquête de quelque argument de poids. Au moment où il se présenta à la porte du misérable réduit des pauvres gens, Jeannette, assise au chevet du moribond, le visage caché dans les mains, pleurait à chaudes larmes. À l'insu de l'aveugle, la bonne femme avait doucement placé auprès de sa paillasse un pot d'eau bénite dans lequel trempait une branche de buis, un petit crucifix espagnol et un fragment de cierge. La vue de ces marques extérieures de pratiques religieuses redoubla l'ardeur du curé, et il apostropha les deux vieillards d'une façon terrible. « Eh bien, Jeannot, s'écria-t-il, le visage en feu et le geste menaçant, vous allez donc mourir et rendre compte à Dieu de votre existence ?»« Qui est là, Jeannette ?» demanda l'aveugle. « C'est monsieur le curé qui vient pour vous confesser, Jeannot. »« Ah oui, mais je ne l'ai pas appelé. Remerciez-le beaucoup et dites-lui que je saurai bien mourir sans son secours. » À ces mots, la physionomie du prêtre prit une violente expression de colère et il dit à Jeannette d'un ton presque féroce « Eh bien, malheureuse, vous voyez où mène l'inconduite. Vous avez scandalisé la société pendant toute votre vie. Vous avez donné aux honnêtes gens de cette ville le déplorable exemple de la débauche et de la persévérance dans le mal. Mais tremblez, tremblez, femme criminelle, l'heure du châtiment est venue. Jeannot mourra dans l'impétinence finale et sera livré aux feux éternels. Oh, mon Dieu, est-ce possible? Et c'est vous, entendez-moi bien, vous, Jeannette, qui serez responsable devant Dieu de la perte de son âme. Quant à la vôtre, tremblez, tremblez, je vous le répète. Ouais, mon Dieu, monsieur le curé, dites-moi ce qu'il faut faire pour racheter mes péchés. Si votre repentir est sincère, il existe peut-être un moyen de prévenir ces épouvantables malheurs. Or, parlez, monsieur le curé, je vous obéirai en tout, sur le saint nom de la bonne Vierge de cette fontaine, je vous le promets. Le curé parut se recueillir un instant et feignit de murmurer une prière. Mais en voyant la façon méphistophélique dont ses yeux roulaient dans leurs orbites, on devinait que le rusé compère s'occupait plus de ses intérêts temporels que des affaires spirituelles du moribond. Il releva tout à coup la tête et dit d'un ton ferme « Vous êtes riche, Jeannette ?»« Riche, ah, la moi, regardez autour de vous, monsieur le curé. Ne cherchez pas à me tromper et n'ajoutez pas le mensonge à la criminalité de votre existence. Vous avez de l'argent. Ah, Seigneur Jésus, peut-on dire ? Vous en avez, je le sais, vous dis-je. » Jeannette se mit tout à coup à trembler comme une feuille de tilleul rudement secouée par le vent d'automne, et au bout de quelques secondes d'hésitation, elle bégaya d'une voix chevrotante. « Eh bien, puisque vous me le commandez, je vais vous dire toute la vérité. »« Enfin !» répliqua le prêtre avec une évidente satisfaction. « Oui, monsieur le curé, des fois comme ça, moi et mon pauvre Jeannot, nous avons mis quelques sous de côté pour ne pas mendier lorsque nous serons tout à fait infirmes. Vous voyez jusqu'où peut conduire l'amour de l'argent, cette hideuse passion qui est la principale cause de tous les crimes qui souillent l'humanité. Afin de garder le vôtre, vous poussiez l'audace jusqu'à mentir à votre pasteur. Je vous demande bien pardon, mon bon monsieur le curé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez chercher la somme que vous cachez et remettez-la-moi. Ouais, mon Dieu, est-ce possible? S'écria la pauvre femme saisie d'épouvante et de stupéfaction. Il le faut, je consacrerai cet argent à dire des messes pour atténuer la colère de Dieu. Mais pourtant, malheureuse, vous voulez donc être précipitée avec ce misérable jusqu'au fond des noirs abîmes de l'enfer ? Répliqua le prêtre en faisant un geste sinistre. Grâce, monsieur le curé, donnez-moi cet argent pendant qu'il est encore temps, et remerciez la Providence qui m'a inspiré la bonne pensée de vous arracher aux griffes de Satan. L'aveugle, rendu muet par l'indignation, levait les mains au ciel comme pour intercéder sa protection. Les puissances célestes étaient sans doute occupées à des choses qui absorbaient tout leur temps, car elles laissèrent le disciple de Tartuffe perpétrer librement le tour d'escamotage qu'il méditait. Dominée par l'audace de ce prêtre indigne, Jeannette fit lentement quelques pas vers la paroi de l'antre et prit, dans une anfractuosité de rocher, un bas grossier noué en forme de sac où elle avait déposé jour par jour depuis 30 ans ses infimes économies. Cette petite sacoche contenait près d'un 1000 000 francs. Dans son ardeur pour le salut du pauvre Hongrois, le curé s'élança vers le sac d'argent et l'arracha en quelque sorte des mains de la malheureuse créature. « Ne vous occupez désormais de rien, Jeannette, dit-il en serrant fébrilement sa précieuse conquête. Je pourvoirai dans la mesure de votre état à tous vos besoins spirituels et temporels. » Il rejeta son bonnet, ou plutôt son éteignoir en arrière, et s'enfuit, les traits contractés par une hideuse grimace, exprimant une satanique fourberie unie à la plus basse cupidité. Debout, au milieu du taudis, la pauvre vieille Jeannette pleurait silencieusement. Paragraphe 3. Le lendemain, le docteur M vint voir Jeannot. Après l'avoir examiné, il demanda à Jeannette si elle lui avait fait prendre les remèdes prescrits la veille. La bonne femme resta muette. « Pourquoi n'avez-vous pas suivi mes instructions ? » reprit-il d'un ton mécontent. « Mon Dieu, monsieur le médecin, je vais vous dire. Eh bien, nous n'avons point d'argent, là, moi. Il fallait me prévenir, je vous en aurais donné. Je croyais que vous possédiez des économies. Nous avions bien mis quelques sous de côté, mais... Mais monsieur le curé est venu et il nous a tout pris. « Comment tout pris ? » répliqua le docteur avec animation. « C'est impossible. » C'est cependant la pure vérité, je le jure sur les cendres de ma pauvre mère, que le bon Dieu est son âme. Le visage du docteur exprima d'abord le doute, tant l'assertion lui semblait excéder les bornes de la raison, mais l'accent de sincérité de la bonne femme ne tarda pas à le convaincre. « Ah, vous avez fait là un joli coup, ma pauvre Jeannette, » lui dit-il avec commisération. « Vous n'auriez jamais dû prêter l'oreille aux insinuations du curé. » « Je n'ai malheureusement pas été maîtresse de faire à ma volonté. »« Quoi ? Il aurait usé de violence à votre égard ?»« Non, monsieur, pas tout à fait. Mais monsieur le curé m'a dit qu'il voulait emporter l'argent en s'en allant. »« C'est incroyable. Oh, je ne mens pas, allez. Le curé a dit comme ça qu'il lui fallait tous nos sous pour nous racheter de l'enfer. »« Eh bien, allez les reprendre tout de suite et dites à cet homme que c'est moi qui vous envoie. »« Seigneur Jésus, je n'oserai jamais. »« Allez, vous dis-je. » Et surtout, ne revenez pas sans votre argent. » Le docteur ne se retira qu'après avoir reçu de la bonne femme la promesse formelle qu'elle allait se rendre à l'instant même chez le prêtre. Jeannette remit la garde du malade à une voisine et se dirigea en tremblant vers le presbytère. Elle rencontra le curé devant sa maison. À la vue de la bonne femme, il fronça les sourcils et releva la tête d'un ton superbe. « C'est vous, Jeannette ? » dit-il. « Pourquoi avez-vous quitté le chevet du moribond ?»« Voilà, monsieur le curé, nous n'avons plus de sous, et le médecin dit qu'il faut des remèdes. »« Des remèdes ? Ce n'est pas moi qui les fabrique. »« Bien sûr, monsieur le curé, mais il faut de l'argent pour en avoir chez le pharmacien, et le médecin m'a dit de venir vous redemander nos sous. » En entendant ces mots, le curé sembla pétrifié d'étonnement, et la pauvre Jeannette recula de terreur en voyant l'expression sinistre de sa physionomie. « Si vous pouviez seulement me remettre une pièce de 5 francs, murmura-t-elle, ce serait peut-être assez pour le moment. »« Hein ? Vous me réclamez de l'argent ? Rien que 5 francs, monsieur le curé. Mais je n'en ai point à vous, malheureuse. » Cette brutale déclaration finit par révolter l'esprit, cependant si pacifique, de Jeannette. Et elle répliqua en ouvrant de grands yeux. « Ouais, mon Dieu, est-ce bien vous, monsieur le curé, qui pouvez me parler comme ça ? « Je vous répète que je n'ai point d'argent à vous. Il ne peut sans doute être ici question que de la somme que vous m'avez remise dans le but de dire des prières pour racheter vos forfaits. Cependant, cette réclamation m'outrage. Vous avez l'air de dire que je veux m'approprier de l'argent qui ne m'appartient pas. Vous me prenez donc pour un malhonnête homme. Pardon, monsieur le curé, mais taisez-vous, vous êtes une insolente. Oh, que je suis donc malheureuse. Vous m'aviez cependant promis hier de me laisser manquer de rien. N'ai-je pas prié déjà pour l'expiation de vos crimes ? Mais c'est des médicaments qu'il me faudrait. La somme que vous me réclamez ne m'appartient pas, et je n'en suis plus dépositaire. C'est maintenant la propriété de l'Église, c'est l'argent du bon Dieu, c'est l'argent des pauvres. Alors, mon beau monsieur le curé, prêtez-moi quelques sous des vôtres, bégaya la malheureuse, complètement bouleversée par l'escobarderie du prêtre. « Allez, allez, bonne femme, répliqua le Basile Aubinet en adoucissant sa voix. Vos voisins sont chrétiens et par conséquent charitables. Ils ne vous laisseront pas manquer du nécessaire. »« Enfin, qu'est-ce que vous avez fait de nos sous ? » balbutia la malheureuse Jeannette à bout de patience. « Soyez tranquille, cet argent sera purifié par la sainteté du lieu où je l'ai déposé. Il est au couvent de la Transformation. » Le madré personnage leva la corne de son chapeau et se retira, laissant la pauvre femme plongée dans une douleur voisine de l'idiotisme. Pierrette comprenait qu'il lui était impossible de lutter d'éloquence sacrée avec un compère de cette force. Aussi ne chercha-t-elle pas à le retenir. Mais une nouvelle idée lui passa par la tête. « Si j'allais voir au couvent de la Transformation, se dit-elle, peut-être qu'on m'écouterait. » 5 minutes après, elle sonnait à la porte de cette sainte maison. La sœur Tourière la reçut du haut de sa morgue et de sa guimpe. On eût dit que la blanchisseuse de l'établissement avait mis de l'emploi jusqu'à sa gorge, tant sa voix était dure et stridente. « Que voulez-vous, bonne femme ? » dit-elle en jetant un profond regard de mépris sur la visiteuse. « Je voudrais parler à monsieur le directeur. Pourquoi ? Mais mon Dieu, pour lui parler ?» Après avoir haussé les épaules à plusieurs reprises, la religieuse se décida à faire prévenir le directeur. Celui-ci arriva bientôt au parloir. « Que voulez-vous, la mère ? » dit-il à Jeannette. « C'est monsieur le curé qui m'a dit que vous avez mon argent. »«
Votre argent ? » ?»«
Oui, monsieur. Il me faut 100 sous pour le pharmacien, s'il vous plaît. » « Allons donc, vous êtes folle, ma bonne femme, » répliqua le directeur en tournant le dos. « Faites-moi le plaisir de sortir d'ici à l'instant. » Puis s'adressant à la sœur Tourière, il ajouta d'un ton impérieux, « Dispensez-vous à l'avenir d'ouvrir la porte à de tels mendiants, car la gravité de mes occupations ne me permet pas de leur donner audience. Mais, monsieur le directeur, ayez un peu de pitié pour les malheureux, je vous dis que j'ai absolument besoin de 5 francs. » « Allez, allez, bonne femme, vous êtes valide, ma chère, et vous pouvez fort bien travailler pour gagner votre vie. » La sœur prit en même temps la pauvre Jeannette par les épaules et la poussa dans la rue. Atterrée de douleur et de désespoir, la malheureuse s'affaissa sur le sol et se mit à pleurer à chaudes larmes. Les vignerons qui passaient en revenant des champs s'approchèrent d'elle avec intérêt. « Comment, c'est vous, pauvre Jeannette ? » lui dirent-ils. « Pourquoi êtes-vous dans une telle désolation ? » La malheureuse femme raconta alors, d'une voix entrecoupée de violents sanglots, la triste histoire de la maladie de Jeannot et de la visite du curé, visite qui avait eu de si funestes conséquences. En apprenant l'odieuse injustice que le prêtre venait de commettre au préjudice de ces pauvres gens, les vignerons indignés se montèrent la tête et allèrent même jusqu'à proposer de détruire le couvent. Heureusement pour eux, l'exécution de ce projet insensé fut paralysée par l'intervention opportune de l'autorité municipale. Mais la vieille Jeannette ne parvint jamais à recouvrer un seul centime de ses épargnes, et 8 jours après, le Hongrois mourut, soulagé en effet, comme l'avait si judicieusement prédit le curé, par la charité publique. La bonne femme s'éteignit quelques années plus tard à l'hôpital d'Aubin. Quant au héros de cette aventure, il est allé depuis recueillir la récompense bien méritée de ses hauts faits en ce genre, car ceci n'est qu'un court chapitre de sa longue histoire. Mais ce vertueux prêtre a dû trouver, dans son inépuisable charité, une protection efficace auprès des puissances célestes. N'était-il pas le véritable ami des vieillards ? Non content de leur aplanir la route du ciel, il travaillait encore à leur rendre le séjour de la terre agréable, en les débarrassant des soucis que cause toujours la possession des biens temporels. Rougi de honte, Basile, tu n'étais pas digne d'arriver à la cheville de ce grand homme. Si l'auteur de cet opuscule doit aller en paradis, il avoue qu'il n'aimerait pas y rencontrer le curé d'Aubin. Quant à l'enfer, cela lui serait à peu près égal, quoiqu'il n'aime être nulle part en mauvaise compagnie. Épilogue. Fidèle à sa parole, l'auteur de cette brochure vient de raconter une partie de l'histoire de l'ancien curé d'Aubin. Il avait fait à ce prêtre, quelques années avant sa mort, la promesse de remplir cette tâche. Les mânes de ce héros de sacristie tressailleront, sans doute, d'aise à l'apparition de ce petit ouvrage, si toutefois les mânes peuvent tressaillir. Quoi qu'il arrive, l'auteur a la conscience d'avoir accompli un devoir sacré, en dévoilant quelques-unes des innombrables turpitudes d'un prêtre qui a constamment fait servir la religion à seconder ses instincts de fraude et de rapine. Maintenant que justice est faite, il dépose la plume avec le désir de ne jamais la reprendre pour la replonger dans une semblable fange.
Les psaumes sont écrits sur les magnétophones. Les chorus sont un nègre à chaque mélopée. Les bouches font des langues cette fois retournées.
Miserere, Seigneur, du front des microphones.
D'acier pousse des fleurs chromées. Le juste en cadillac sans sens du cigare. Le courrier meurt de peur dans les aérogares.
Miserere, Seigneur, du fond des déciers.
Fout la tournée au pain azime. Les moutons des prisons se laissent tricoter. Et le coq de Saint-Pierre a tranché son gosier.
Miserere, Seigneur, du fond des anonymes.
Les condamnés jouent au poker leur appétit et laissent au suivant leur part de Jamaïque. Le coup de grâce dans le vent est liturgique.
Miserere, Seigneur, du fond des pilories.
L'estomac du commun se met en diagonale. Le traiteur donne aux chiens sa pitié tarifée. Les boueux ont glissé sur des pots d'orchidées.
Miserere, Seigneur, du fond des capitales.
Les banques de l'amour sont pleines à craquer. Les je t'aime publics assomment les affiches. Et les adolescents ont des lèvres postiches.
Miserere, Seigneur, du fond des oreilles.
Regarde passer les voyelles. Les ortolans prennent le frais dans le commun. Et le saumon fumé boude le tapioca.
Miserere, Seigneur, du fond de nos gamins.
Les femmes en gésine inondent pavés. Le mineur fait un blanc à chaque lavabo. Et le souffleur de baccarat fait des bancos.
Miserere, Seigneur, du fond des encavés.
Les bruits. de Panurge attendent au vestiaire. Les visages escomptés percutent sur l'azur. La queue chez l'épicier jouit contre le mur.
Miserere, Seigneur, du fond des muselières.
La ville a dégrafé son corsage de mort. Les balles dans la rue ont la poudre nomade. Les pavés font la main aux yeux des barricades.
Miserere, Seigneur, du fond des terminants.
Sentent le roussi. Les magazines font la pige aux évangiles. Et les chemins de croix se font en crocodile.
Miserere, Seigneur, du fond des crucifix.
Le titre en deuil, la putain des frontières. La fleur fane au fusil et meurt sous un drapeau. Et les descripteurs nous mènent en bateau.
Miserere, Seigneur, du fond de nos galères.
La maladie veille au chevet des ganglions. Le cœur est métronome et la vie est musique. À l'hôpital, les symphonies sont catholiques.
Miserere, Seigneur, du fond des pulsations.
Sur le tour égrène son rosaire. Le tueur de la rue a gagé son beefsteak. Et celui de Corée n'aura pas un copain.
Miserere, Seigneur, du fond des mers.
Le verbe s'est fait chair dans le ventre rusé. La putain Marguerite a la peau qui dépasse. Le caillot dans les plis sinueux se prélasse.
Miserere, Seigneur, du fond des pubertés.
De la rue ont piqué la vérole et réclament partout de faux médicaments qu'on leur sert en faisant claquer toutes leurs dents.
Miserere, Seigneur, du fond des Carmagnoles.
Sont en grève au cœur des matelots. les oiseaux carburés, fiantes des équipages. Le soleil fait la course avec le paysage.
Miséréré Seigneur, du fond des paquebots.
La trouille a revêtu la terre de sa houffe. Le plat de contrition se vend au marché noir. Le curé fait du supplément sous l'ostensoir.
Miséréré Seigneur, du fond de la ressource.
Condamnés jouent au poker leur appétit et vous laissent, Seigneur, leur part de solitude. Le service est compris, nous avons l'habitude.
Descendez, bon Seigneur, de notre galerie.
Ainsi se termine cette deuxième émission consacrée à l'anticléricalisme de Gustave Courbet. À travers l'évocation de ces deux tableaux, le retour de la conférence et la mort de Jeannot. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. La multiplication des pains de et par Stéphane Goldman. Puis c'était un texte de Bernard Dumais, mis en musique et interprété par Jean-Michel Piton, « Si Monseigneur voulait ». Ensuite, c'est Gilles Servat qui interprétait sa composition « Le tango des curés ». Puis, vous avez entendu la chanson de Jean-Roger Cossimon, « Galilée ». Et enfin, c'est Léo Ferré qui, sur ses paroles et musiques, interprétait le psaume 151. Nous vous souhaitons de bonnes pensées bien rationnelles.
Thank you. Thank you.